Radio Okapi.
Le président de la République annonce une série de mesures en faveur des militaires au front. C'est notamment l'augmentation de la prime des combats pour ceux qui sont déployés dans les zones opérationnelles. Décision prise lors du Conseil des ministres de ce vendredi. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle à plus de 40 millions de dollars pour aider les déplacés au nord et au sud Kivu, ainsi que dans les pays voisins. Pour les affaires, il y a un besoin urgent d'abri, de nourriture et de latrines. La régie des eaux Maniema éprouve actuellement des difficultés de fonctionnement, situation qui met à mal la desserte de la population locale en eau potable. Pour en parler, nous recevons Michel Tijik, directeur provincial de la régie des eaux Maniema, dans ce journal. Bonjour à tous. Le président Félix Tshisekedi redemande la mise en œuvre immédiate des mesures destinées à augmenter la prime des combats en faveur des militaires de la RDC, en particulier pour ceux qui sont déployés dans les zones opérationnelles. C'était lors du Conseil des ministres hier vendredi. Selon l'ACP, le président a également demandé de veiller à la prise en charge de leurs familles, en particulier pour ceux qui sont au front. Les enfants et les épouses de nos braves soldats méritent soutien et attention car ils portent aussi le poids de cette guerre, a rapporté Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, lors de la lecture du compte-rendu de la 32e réunion du Conseil des ministres. Et dans les territoires de Lubero, au nord Kivu, les forces armées de la RDC et FARDC ont présenté hier des excuses aux opérateurs économiques des Lubero suite au pillage systématique perpétré par certains militaires incontrôlés le jeudi 20 février dernier. Le colonel Sadiki Sulika Daniel, responsable du département civilo-militaire, a exprimé ses mea culpa lors d'un entretien avec la population au bureau de la commune de Lubero. Lors de cet échange, ce haut officier supérieur des FARDC a condamné ses agissements et a indiqué que les responsables de ces actes sont activement recherchés pour répondre de leurs actions. On l'écoute dans cet extrait choisi par Ronelin Tibounera.
L'armée ne doit pas vraiment régorger des indisciplinés. Le problème, c'est quoi? Puisque nous avons des services qui sont en pied d'œuvre juste pour aller traquer ces gens qui ont commis des bavures dans la journée d'hier. Et je crois que vous le saurez, comme on le fait chaque fois, quand il y a des histoires pareilles, quand il y a des débordements, en principe, vous participez à des chambres foraines ici souterraines. Et ceux qui seront attrapés, ils seront jugés et répondre à leurs actes. Comme nous avons été débordés hier, ce n'est pas la fin du monde. La vie doit continuer. On doit reprendre les activités pour que les enfants, les femmes champêtres doivent aller au champ cultiver pour que nous puissions avoir au moins le vivre au marché, nous puissions au moins reprendre la vie comme il faut. C'est un peu ça. Ce qui est déjà passé est passé et nous devons aussi reprendre la vie normale.
Par ailleurs, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, dote la régie des eaux sud Kivu du matériel pour améliorer la desserte en eau potable. Cette dotation comprend, entre autres équipements, un générateur de 500 kVA capable de pallier à toute éventualité en cas de rupture du courant électrique pendant cette période de crise à Bukavu. Des précisions dans cet élément de Jean Kassami rendu par Jude Bilanda.
La remise a eu lieu ce vendredi 21 février à la régie des eaux Sud Kivu dans la commune du Banda à Bukavu. Le CICR dote la régie des eaux du matériel contenant un générateur d'une puissance de 500 kVA, un lot de 18 tonnes de sulfate d'alumine et 10 000 litres de gasoil. Ce matériel permettra à la régie des eaux Sud Kivu de répondre en permanence aux besoins de la population en eau potable pendant cette période d'instabilité dans la ville de Bukavu. Franck Salomou Mwamba, directeur technique de la régie des eaux Sud Kivu, promet de gérer cette dotation du CICR en beau-père des familles pour le bien-être de la population affectée par la guerre. Il invite les abonnés à honorer leurs factures en guise de soutien aux travaux de maintenance de l'ouvrage.
Et puis, cet appel du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Christian Boussimbi, qui exhorte les médias congolais à faire preuve de patriotisme en cette période cruciale de l'histoire de la RDC. Il se félicite de l'observance par la plupart des médias des directives du CESAC concernant l'agression imposée à la RDC dans l'est du pays. C'était lors d'un point de presse organisé hier ici à Kinshasa. Selon lui, face à l'enjeu existentiel de la RDC et à la désinformation sur la guerre à l'est, la presse doit responsabiliser la population et n'est pas cédé à toute forme de manipulation. Les propos de Christian Boussimbi ont été recueillis par Marcel Ngombombala.
Ici, je suis vraiment venu vous remercier d'abord, la presse. Notre directive a été
à 90% suivi et même respecté, relayé, même s'il y a eu des déformations de nos propos, mais dans l'ensemble, nous avons quand même remarqué que les gens ont plus ou moins respecté la directive. Donc je vous félicite vraiment la presse, surtout nationale, parce que vous avez suivi ces discours-là, vous avez fait le choix. Comme vous le savez, dans chaque période, la presse choisit son camp. Et je remercie la presse congolaise puisqu'elle a fait le choix de la patrie. Ça a été remarqué que dans certains médias, ils ont carrément refusé même des débats stériles. Et tout était vraiment dirigé vers la consolidation de la cohésion nationale. Et j'ai vu personnellement certaines plumes aussi merveilleusement écrites. Il y en a d'autres, des plateaux qui ont été dédiés entièrement à la question de l'Est. Parce que vous devez le savoir, nous traversons une situation extrêmement difficile.
On enchaîne avec la ville de Lubumbashi où le commandant de la 22e région militaire a présidé hier au camp major Vangu une parade mixte FRDC, Police nationale congolaise et Service national. Au cours de cette rencontre, le général de brigade Eddie Capen a rappelé aux troupes présentes que le pays est en guerre. Pour cela, elles doivent rester en alerte et prêtes pour défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Jean Gando.
L'objectif était de remobiliser les troupes au regard de la situation que traverse le pays. Il leur a rappelé le sens de leur devoir sacré, à savoir ne jamais trahir la patrie. Pour lui, les soldats doivent être prêts pour la bataille. Sa mission en tant que commandant de la 22e région militaire, a-t-il indiqué, est de mettre toutes les troupes sous sa responsabilité en état de guerre. Il leur a demandé de rester en alerte et surtout vigilante, tout en interpellant leur conscience.
Et s'engager avec courage, avec orgueil et avec honneur à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Il est un honneur pour un soldat que de mourir avec son arme en main. C'est un déshonneur, c'est une honte pour la République lorsque les soldats fuient et il est massacré comme une souris.
En rapport avec l'attitude que les militaires doivent avoir, il a précisé ceci.
Toute la 22e région militaire est composée par des hommes qui sont conscients, qui savent pourquoi ils sont rentrés dans l'armée et le moment est venu pour que le sens de notre engagement sous les drapeaux soit opérationnel. Donc mes hommes et moi-même resterons debout devant l'ennemi, nous nous battrons jusqu'au dernier de nos soldats.
Enfin, le général de brigade Eddie Capen a demandé aux uns et aux autres de sécuriser la population et surtout de vivre en harmonie avec elle comme le poisson dans l'eau. Lubumbashi, Jean Gando, Radio Okapi.
Nous l'avons dit dans les titres, alors que les rebelles du M23 continuent leur progression au nord et au sud Kivu, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR lance un appel de fonds de plus de 40 millions de dollars pour aider les personnes déplacées dans ces deux provinces de l'Est et dans les pays voisins. Le récit de Gisèle Cage rendu par Stanislas Richard Diomi.
Selon l'agence, depuis le début du mois, plus de 40 000 ressortissants congolais, en majorité de femmes et des enfants, sont arrivés au Burundi. Ce nombre est susceptible d'augmenter à mesure que les hostilités en RDC progressent vers la ville d'Uvira, près du principal point de passage officiel de la frontière avec le Burundi. Sainte inquiété vendredi, depuis Bujumbura, la représentante du HCR au Burundi, Brigitte Mukanga Eno, lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève. Un nombre inquiétant d'enfants. En collaboration avec les autorités nationales, les réfugiés seront transférés dans les prochains jours vers le site de réfugiés des Mousseni dans le sud-est du pays, qui a une capacité d'accueil de 10 000 personnes. Selon le HCR, il y a un besoin urgent d'abri, de nourriture et de latrine, ainsi que de reloger les nouveaux arrivants dans d'autres sites afin de remédier à la surpopulation. Plusieurs cas de rougeole ont été confirmés avec un risque réel de propagation de la maladie, étant donné le nombre croissant de personnes dans la région. L'appel de 40 millions lancé vendredi par HCR permettra de venir en aide à 275 000 personnes déplacées. Les fonds visent aussi à soutenir un afflux potentiel de 258 000 réfugiés, demandeurs d'asile et rapatriés dans le pays voisin, y compris au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, et en Zambie.
Autre chose à présent, la diversité linguistique de l'Ituri est une richesse qui doit promouvoir le vivre ensemble et non s'aimer des divisions au sein de la communauté. Ces propos sont de Bagamba Arahali, professeur en linguistique et expert en comportement langagier à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle le 21 février. Dans une interview accordée à Radio Okapi, le professeur Arahali souligne que l'Ituri compte une vingtaine de langues parlées dans les 5 territoires de la province. Il insiste sur l'importance pour toutes les communautés d'inculquer dès le bas âge à leurs enfants la culture de l'amour, du prochain et du pardon pour favoriser le vivre ensemble. Bagamba Arahali s'exprime au micro d'Ezekiel Mouzalia.
L'Ituri, c'est la seule province où vous trouvez les langues bantoues, les langues nilotiques. Ça fait pour nous une recherche linguistique dont nous devions être vraiment fiers. Selon l'UNESCO, il faut que chaque enfant puisse parler au moins trois langues. Sa langue maternelle, une langue régionale comme le swahili ou le lingala, et une langue internationale pour acquérir les connaissances au niveau universitaire. Alors, c'est ce que nous voulons encourager. Un enfant qui parle la langue beke doit aussi parler le swahili pour parler ondaka et ombo et les bali qui sont dans les environs, et aussi le français pour accéder à les formations du niveau universitaire. Nous devons éduquer nos enfants à comprendre qu'il y a eu donc la diversité culturelle que nous avons, c'est plutôt une richesse. Je ne suis pas tout à fait satisfait du cours de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Je veux un cours où on va enseigner aux enfants que nos enfants maîtrisent toutes les tribus de ce pays et avec leur diversité, qu'on leur dise que tous ces citoyens sont tous des Congolais et ils ont le même droit devant Dieu et devant l'État.
Sachez que la Journée internationale de la langue maternelle avait été instituée par l'UNESCO en 2001. Et dans la province du Maniema, les équipes cadres des zones de santé et de la division provinciale de la santé DPS ont été formées sur la numérisation des activités de supervision, notamment pour lutter contre le paludisme, afin de digitaliser le système de santé. Une formation organisée par l'organisation Santé Rurale Sanru Aispel. Écoutons à ce sujet le docteur Jean-Claude Koufoutoua au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons réuni les cadres des zones de santé, les médecins-chefs des zones, les infirmiers superviseurs, les data des zones de santé. Nous avons aussi ici le cadre de la DPS. Nous avons aussi les différents cadres de sous-bénéficiaires ou acquis. Comme vous le savez, le monde est numérisé, c'est l'ère du numérique et dans nos appuis, nous donnons les appuis par rapport aux luttes contre le paludisme et il y a des sites de soins que on a installé avec le ministère de la Santé dans les différentes zones de santé et ces sites de soins sont supervisés par les infirmiers titulaires. Nous avons voulu alléger la tâche des infirmiers superviseurs qui vont superviser ces sites de soins en digitalisant leur supervision. C'est comme ça qu'il y a ces formations en cascade. Nous formons d'abord la DPS et les zones de santé et à leur tour, ils vont former maintenant les IT pour utiliser cette application dans leur prochaine supervision.
Actualité internationale.
La 29e édition du prestigieux Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, démarre ce samedi 22 février dans la capitale du Burkina Faso. Son déroulement, bien qu'endeuillé par la mort du réalisateur malien Souleymane Cissé, qui devait en présider le jury de la catégorie long métrage, fait espérer l'ouverture d'un espace de liberté et de renouveau.
L'invité.
La régie des eaux Maniema connaît d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Cet état des choses ne permet pas à cette société publique de servir correctement la population estimée à plus de 440 000 habitants. Michel Tijik est le directeur provincial de la régie des eaux Maniema. Dans cet entretien avec Florence Kizalunga, il explique le système d'adduction d'eau dans cette province. Suivez.
Monsieur Michel Tijik, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Monsieur le directeur, est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport au système d'adduction d'eau potable dans la province du Maniema?
Merci beaucoup Madame Florence pour la question. Et effectivement, les problèmes des décès en eau potable dans la province du Maniema sont très très criants sur les 7 territoires qui existent. Nous y sommes dans 5 avec des petits systèmes qui tiennent encore bon jusqu'à aujourd'hui. Donc à Kindu, nous avons un système d'adduction au niveau du fleuve qui nous donne à peu près une moyenne de 1500. Nous additionnons avec un autre système à Luama et de l'autre côté sur la rive droite à Lunguli, ce qui nous amène à avoir un total autour de 2000. Alors hier, au niveau de la conférence, nous avons parlé des 2600. C'est le total avec ce que donnent les associations qui gèrent les installations faites par Enabel. Quand on fait le total, ce que donne la régie des eaux autour des 2000, ce que donnent ces associations, nous avons un total de 2600. Pour la ville de Kindu seulement. Et en ce qui concerne les autres territoires, nous existons à Kasungu, nous sommes aussi à Punia, où les travaux de récupération du réseau sont en cours, et nous sommes également à Kabambare et à Kalima. Et très bientôt, peut-être nous allons démarrer les activités au niveau des Louboutins.
Nous voyons que c'est un défi. Il y a une forte demande, mais l'offre est trop petite. Pourquoi?
Certainement, au niveau des Kindu, les sièges de la province, la demande elle est très forte. S'il faut nous arrêter sur les statistiques de 2023, la population est estimée à 440 000 habitants avec une dotation de 60 litres par jour par habitant. Nous sommes à un besoin de 26 400 mètres cubes jour. Alors que le total des systèmes existants nous donne 2600. Donc vous remarquez tout de suite que c'est 10%. Un défi énorme et non seulement sur les sièges de Kindu, mais c'est la même chose au niveau de la province.
Qu'est-ce que la Régie des Eaux, vous pensez alors faire pour résoudre cette question?
C'est vrai que la Régie des Eaux travaille déjà sur des petites unités. De façon générale, la Régie des Eaux se bat dans la mesure du possible pour remonter les niveaux des dessertes. Mais en réalité, c'est un défi majeur qui ne peut pas être résolu uniquement par la Régie des Eaux. Pourquoi? Parce que les problèmes sont connus, les études ont été faites récemment pour la ville de Kindu et un projet existe dont le dossier d'appel d'offres est là et montre qu'il nous faut réunir au moins 8 millions de dollars pour la construction d'une chaîne de traitement complète au niveau du fleuve et être en mesure de porter les taux de desserte de 10 aujourd'hui jusqu'à 72%. Donc là, ce n'est pas seule la Régie des Eaux qui peut le faire. Nous pouvons porter cette difficulté au niveau du gouvernement provincial et le gouvernement provincial peut-être s'adresser au gouvernement central par les biais du ministère des Finances, chercher comment on peut trouver des partenaires extérieurs pour financer ce genre de projets, notamment la Banque mondiale, la BAD et les autres, de façon à pouvoir construire une usine en bonne et due forme.
Mais nous voyons que depuis des années, la Régie des Eaux ne dessert que les habitants, sinon la population se trouvant dans les anciens lotissements. Mais dans de nouveaux lotissements, la Régie des Eaux n'est pas présente.
Ah, c'est vrai, c'est un constat correct. Bon, la raison c'est quoi? C'est parce que les investissements n'ont pas suivi l'augmentation démographique. Ça veut dire qu'on a construit des installations il y a longtemps pour une petite population qui existait dans le temps. Mais l'accroissement est phénoménal au niveau de nos entités et les investissements n'ont pas suivi. Conséquence, les installations qui existaient il y a 40 ans, 30 ans, ne vont desservir que les zones qui étaient encore loties à l'époque. Mais les nouveaux lotissements ne sont pas atteints parce que la quantité n'est pas suffisante pour d'abord desservir les anciennes parties qui existaient, mais également atteindre les zones périphériques. Ça, c'est la difficulté. C'est la raison peut-être pour laquelle vous remarquez que seuls les anciens lotissements proches des anciennes installations sont correctement desservis alors que les périphéries ne sont pas atteintes.
Est-ce que vous pensez quand même résoudre la question?
Oui, c'est comme je venais tantôt de le dire. Nous pouvons résoudre cette question de deux manières. Une première façon, c'est de mobiliser les ressources en eau dans les zones périphériques et faire des adductions d'eau localisées. Une deuxième façon, c'est d'avoir carrément un grand système de production d'eau potable tel que le projet dont je venais de dire. À ce moment-là, nous allons étendre les réseaux. L'eau ne va pas desservir seulement les anciens lotissements et peut être en mesure d'atteindre les périphéries de la ville.
Monsieur Michel Tchijiko, merci.
Merci Madame Florence.
Notre invité, le directeur provincial de la Régie des Eaux Maniema, était avec Florence Kizalonga. C'est la fin de ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et mis en onde par Mimi Kindu. Grâce à Hamza Timassanzi était la présentation et vous dit merci.